Géographie. Culture Ville, Pascal Paradis.
De Rio à Lausanne, en passant par Bruxelles, et tout ce monde-là se retrouve à Paris. Sophie Torlotin, vous avez rencontré le plus romantique des auteurs de BD.
Le Belge Isler, qui entame une grande série familiale avec l'album La Guerre des Cendres, Hugo et Iris.
José Marigno, si je vous dis des filles plus belles que le jour, avec du rythme, ambiance caliente, vous me répondez?
Batucadas, donc c'est un clin d'œil parisien au plus grand carnaval, le plus célèbre carnaval du monde, qui est celui de Rio de Janeiro.
Enfin, le ballet Lausanne est à Paris et il présente la chorégraphie posthume de Maurice Béjart, Bérénice Balta.
Et c'est un tour du monde, Pascal, non pas en 80 jours, mais en 80 minutes qui nous est proposé là.
Maurice Béjart n'aura donc pas pu voir son dernier ballet, le Tour du Monde en 80 minutes. Il est décédé avant, le 22 novembre dernier. Mais son successeur à la tête du ballet Lausanne, Gilles Roman, a décidé de poursuivre son travail. Et le spectacle est actuellement en tournée, et précisément à Paris, au Palais des Congrès. Alors Bérénice Balta, signé Béjart, du pur Béjart.
Du pur Béjart, dans la mesure, Pascal, où en fait ce sont des chorégraphies qu'il a vues finalement, Maurice Béjart, avant de mourir à 80 ans, puisqu'il les a pratiquement toutes créées. Ce sont un petit peu des patchwork qui sont proposés là. Sénégal, Sahara, Égypte, Grèce, Venise, Vienne, Inde, Pôle Nord, Chine, San Francisco, Brésil. J'espère que je n'en oublie pas. Évidemment, vous aurez bien constaté qu'il y a à la fois des villes et des pays. Donc, il les a créés, ces ballets, comme un patchwork. Et Gilles Roman a fait en fait les liaisons. Je pense que le Tour du Monde aurait été plus complet, effectivement, s'il n'avait pas passé l'arme à gauche.
Alors, le Tour du Monde en 80 minutes, cela fait référence, bien sûr, à Jules Verne, au Tour du Monde en 80 jours. Est-ce que c'est une référence assumée? Apparemment, oui, si je vous écoute.
Oui, Pascal, par rapport à l'idée du voyage, hein, bien sûr, du mouvement, du déplacement.
De l'énergie.
Oui aussi, si l'on considère que le Tour du Monde en 80 jours, façon Jules Verne, c'était un défi, et que donc là, en 80 minutes, c'est également un défi, oui, par rapport aussi donc à cette énergie à laquelle vous faites référence.
Alors, que voit-on sur scène, Bérénice? On imagine une succession de tableaux, une succession de types de danse aussi, à vous entendre.
C'est un petit peu ça. Alors, par moment, d'ailleurs, Gilles Roman ne s'en cache pas, et c'était un petit peu l'angoisse qu'avait d'ailleurs Maurice Béjart. Il disait, j'ai peur de faire un peu Club Med, en faisant cette création. C'est vrai que de temps en temps, on est un petit peu dans le côté un petit peu lisse, un petit peu presque folklorique, j'oserais dire, de la danse. Évidemment, quand on est au Sénégal, on a des percussions. Quand on est en Grèce, on a du bouzouki. Donc, on tend par moment vers le cliché, mais on s'appelle Béjart et on a quand même un talent que d'autres n'ont pas, et on dépasse ce cliché, et c'est ça qui fait que ce type était unique, et il le reste. Donc on évite quand même si par moment, honnêtement, il y a des petites faiblesses, mais il y a quand même une vraie énergie et quelque chose qui ressemble aussi à tous les hommages qu'il a voulu faire au monde qu'il a exploré. Et par exemple, comme c'est un type intelligent, il n'a pas fait le Japon, où il a, on l'idolâtre au Japon, Maurice Béjart. Et il s'est dit, non, là quand même, je peux pas faire le Japon, on m'attend trop au tournant, donc il n'y a pas le Japon, par exemple.
Alors vous dites que c'est un chorégraphe exceptionnel, c'est vrai, il avait des interprètes aussi exceptionnels, parce que le ballet Béjart, c'est aussi une école, et il les a fait travailler, j'imagine, ces interprètes, pour atteindre ce niveau-là de perfection et de prouesse technique même.
De prouesse technique, vous avez raison, on est presque au même niveau que de grands ballets classiques, qu'on soit à l'Opéra de Paris ou au Ballet Russe, on est dans la technicité. On a perdu un petit peu il y a quelques années, on disait que les garçons chez Béjart étaient exceptionnels, bien plus que les filles. Aujourd'hui, je dirais que c'est à égalité. On est à peu près une quarantaine de danseurs, 15 nationalités. L'idée même de ce ballet, c'était aussi d'aller chercher partout dans le monde, là où on était le meilleur, à Cuba, au Brésil, en Chine, n'importe où.
Alors, quel avenir, Bérénice Balta, pour ce ballet, pour cette compagnie, pour ces danseurs, maintenant que Béjart n'est plus là et que sa dernière chorégraphie est faite?
250 ballets quand même, Pascal. Alors, comme disait Béjart, 150 mineurs. Il en reste quand même une centaine à exploiter. Donc, ça fait quand même un beau patrimoine à pouvoir promener, un beau répertoire. Ça a été très démocratisé hein, chez Béjart. Il s'inspirait aussi bien de Wagner que des Stones, Cartaud que Shakespeare. Salle classique, salle contemporaine. Donc, tout ça, ça reste là. Ça reste à exploiter. À Lausanne, on est encore avec un bail, si je puis dire, de 3 ans. Donc on est en tout cas en Suisse au moins pour 3 ans. La succession sera sans doute difficile en termes de personnes, de personnification, parce que c'est vrai que Béjart, ben, c'était Béjart, que Gilles Roman qui était avec lui à ses côtés depuis déjà plus de 20 ans, on a un peu souvent tendance à oublier qu'il était là. Mais tout d'un coup, il est apparu parce que Béjart, il prenait toute la scène, il prenait tout l'espace. Donc maintenant, à lui aussi d'assumer cet héritage et de faire en sorte que la compagnie, il y a des beaux restes, comme on dit, il y a de quoi largement tenir.
Alors en attendant la suite, le tour du monde en 80 minutes du ballet Béjart, c'est jusqu'au 10 février, en fait tout ce week-end, au Palais des Sports.
Là, je me déshabille pour mettre mon costume. Plutôt ambiance afro. On a différents tissus. Il y a un tissu blanc et un tissu aux couleurs de notre groupe, qui est le noir, le rouge, le blanc et le jaune. Et chacune avec ses deux tissus en fait ce qu'elle veut.
Et vous étiez là, José Marino, en train d'assister au déshabillage de cette jeune fille.
Elles étaient plutôt 15 filles.
15 filles.
15 filles. Et on les a rencontrées un peu dans une espèce de paradis confiné qui était leur loge très serrée avant le spectacle, climat tropical au cabaret sauvage, mélange des genres, des styles et des rythmes, un peu un va-et-vient entre Paris et le Brésil avec le maracatu, c'est un rythme qui vient d'Amazonie, le samba, des rythmes afro-brésiliens. Reggae, salsa et pop, en fait un solo de 25 minutes à 30 mains, phénoménal. Une mise en scène astucieuse et débordante d'exotisme frénétique, il faut le dire. Les batucs, donc c'est le nom portugais qui désigne les tambours de Zalindé, qui est le groupe 100% féminin, réveillent les morts du candomblé. Et croyez-moi, ils hypnotisent les vivants, comme on fait plutôt les sirènes, vous voyez, qui ont attiré Ulysse dans les profondeurs de désir. Voilà ce qui se passe un petit peu quand on voit ces 15 filles formées donc en 2002. Zalindé, fut l'un des premiers groupes de batucada à être créé en Europe. Il a été le lauréat du concours de percussion de Paris en 2007. Donc beaucoup d'imagination et souplesse. Les 15 filles font le grand écart pour rapprocher les cultures.
José Marinho dans les loges du groupe Zalindé.
C'est ça le truc qui casse les oreilles. Hein. C'est celui-là.
La batucada, c'est surtout une musique qui se joue dans la rue, au milieu des gens. Sur scène, ça arrive aussi, mais c'est moins l'âme de la batucada. Ensuite, la particularité de ce groupe, comme tu as vu, c'est qu'on n'est que des femmes. On joue aussi sur notre côté féminin, à savoir la sensualité. Alors, il est vrai que Zalindé a été la première batucada 100% féminine. Il y en a d'autres depuis, donc on a un peu ouvert la voie, je dirais. On est un peu précurseur de ce domaine-là. Donc l'histoire vient d'une amitié entre Chloé et Roberta, qui est brésilienne. Et elles ont décidé de monter effectivement ce groupe exclusivement féminine. Donc effectivement, c'est un peu impressionnant pour les gens de regarder toutes ces femmes porter les gros sourdos, c'est les grands tambours, les basses pour ceux qui ne connaissent pas. Sauf qu'on le fait à notre manière, à notre sauce, à la sauce féminine. C'est pour montrer que un groupe de filles peut avoir un impact très important. C'est un autre impact que les autres batucada, si tu veux, parce qu'il y a une image très forte dès le départ sans qu'on fasse rien. Rien que de voir ce groupe, cette quinzaine de filles, tout de suite, ça pose une image, une belle image. C'est multi-ethnique, multi-couleur, multi-religion, multi-tout. C'est la diversité.
Tout de bon ?
Ouais, c'est dans moins d'une minute, là. Non, c'est le bon track, là, qui donne une super pêche et c'est l'adrénaline, quoi.
Les filles, les magnifiques filles de Zalindé.
La batucada qu'on joue en France, elle est forcément différente de ce qu'on peut retrouver au Brésil, mais ça vient de tout le folklore brésilien depuis le départ, en fait. L'arrivée des esclaves, les tambours, la percussion, c'est quelque chose qui est très fort, qui fait partie de la culture brésilienne depuis le début de l'existence de ce pays. On en retrouve à tous les quatre coins du Brésil, avec des variantes vraiment très différentes, des rythmes dans le nord-est qui viennent même d'un métissage avec la polka, par exemple. Donc c'est pour dire combien ce pays est riche en métissage musical. Et nous, en France, on s'est d'abord inspiré de tous ces blocs carnavalesques qui existent au Brésil et qui jouent beaucoup de percussions, forcément. On a intégré dans notre culture à nous ce qui nous plaisait au Brésil.
Je suis Luis Torreal, brésilien, je suis depuis 18 ans à Paris. Et avant de venir ici, je suis carioca, donc de Rio de Janeiro. J'ai travaillé dans un centre culturel au Brésil, le Circo Voador, qui existe toujours. C'est un haut lieu de la culture populaire dans le vieux centre de Rio. L'origine de la batucada au Brésil, c'est vraiment l'arrivée des esclaves africains, donc bien avant le début du siècle dernier. Et cet phénomène de carnaval qui était très proche de ce qu'on peut voir à Nice, petit à petit s'est transformé avec les mélanges de la musique européenne et des tambours. Et de plus en plus, donc, les percussions ont pris le pouvoir et les musiques sont devenues de plus en plus percussives dans les carnavals, avec des chemins différents entre ce qui s'est passé à Rio, ce qui s'est passé à Bahia, ce qui s'est passé à Recife, où il y a plusieurs rythmes différents, et encore plus au nord du Brésil, ou plus à l'intérieur. Ça donne pas toujours la samba qu'on a l'habitude de voir à la télé, dans les carnavals de Rio, mais ça donne plusieurs rythmes différents de samba, qui sont caractéristiques des différentes régions du Brésil.
Moi, c'est assez spécial parce que je suis brésilienne. C'est la première fois que je passe le carnaval à Paris. Et je suis très contente d'être dans ce groupe. C'est justement un peu du Brésil à Paris. C'est un regard tout particulier et ça apporte la même énergie, la même joie qu'on a au Brésil. C'est merveilleux.
Le groupe Zalindé, donc 15 filles, et leur tambour était le week-end dernier au cabaret Sauvage, c'est dans le parc de la Villette, dans le nord de Paris. Une chaude soirée brésilienne est encore annoncée pour ce samedi 9 février.
J'ai commencé à écrire une dizaine de synopsis des familles antérieures, des ancêtres, des cendres, et où en fait la donnée est toujours la même. C'est à chaque génération, il y a un homme cendre qui tombe amoureux d'une femme aux yeux rouges, et ça finit mal, quoi. C'est une histoire fatale.
Des histoires d'amour entre les hommes sombres et des filles aux yeux rouges, sombres histoires que celles que vous nous racontez, Sophie Torlotin.
Oui, les sombres histoires que connaissent déjà les lecteurs de la première saga sombre. Là, on vient d'entendre Isler, c'est un auteur de bande dessinée de 51 ans qui s'est fait connaître par ses séries Bidouille et Violette et surtout les 5 tomes de Sombre, récit fiévreux et romantique d'un amour impossible dans le Paris révolutionnaire de 1848 entre un jeune homme de vieille famille, Bernard-Marie Sambre, donc, et une jeune fille aux yeux rouges, Julie. Alors, Isler, là, il a repris un projet un peu fou, parce que donc, cette série de 5 albums se terminait par la mort du héros principal, Bernard-Marie Sambre, et Isler a eu l'idée d'inventer, de créer une sorte de généalogie de son personnage, et d'expliquer pourquoi ce personnage est tombé amoureux d'une jeune fille aux yeux rouges, et pourquoi c'est une sorte de malédiction qui se transmet de génération en génération. Alors, il faut savoir que dans le premier tome de cette première série, alors, ça va être un peu compliqué. compliqué de parler de saga.
Non, je vous suis, je vous suis.
Le héros Bernard Marie tombait sur un livre écrit par son propre père, Hugo, un livre qui s'appelait La guerre des yeux, mais donc il n'a jamais su exactement de quoi il en retournait. Donc là, il s'agit, avec ce premier tome d'une nouvelle série, mais qui remonte le temps, on va dire, d'expliquer un peu la malédiction familiale. Alors, c'est assez étonnant, en bande dessinée, à mon humble avis, c'est sans précédent, qu'un auteur de BD se fasse un peu comme, en toute proportion gardée, comme Balzac ou comme Balzac avec la comédie humaine, ou Zola avec les Rougon-Macquart, à savoir essaye d'inventer un monde et d'inventer une série. Là, il a 15 albums en projection.
Il remonte le temps de ses héros,
de
il
famille.
Refait l'histoire et du siècle et de la famille,
voilà.
J'imagine, et c'est sans fin, parce qu'il peut
Exactement.
Remonter jusqu'à quand?
Et ben, il veut remonter jusqu'à la préhistoire.
Jusqu'à la préhistoire, donc c'est pas 15 albums, c'est bien plus qu'il
oui,
va c'est, faire.
Alors oui, voilà, mais là, il a comme ça écrit, donc là, Isler, c'est un dessinateur, les 5 premiers albums dont je vous disais de cette série, il les a dessinés avec un style graphique qui lorgne du côté de la Croix, donc des peintres romantiques, logique, puisque l'action première se déroulait en 1848. Les personnages, c'est un peu des albums aux couleurs sépia, avec des personnages, les personnages masculins aux yeux sombres et aux cheveux roux, au teint blafard, les personnages féminins, enfin l'héroïne avec les yeux rouges. Et donc là, il est juste scénariste, donc il a ce grand projet, et il a fait appel à des jeunes dessinateurs pour l'aider en fait à mettre en image son univers et ce projet un peu fou, c'est vraiment un défi scénaristique. Isler.
Les lecteurs qui aiment les histoires d'amour quelque part cherchent un peu toujours la même chose. Il est clair qu'aussi un spectateur va voir un film d'amour, il sait à peu près d'avance que ça va, il va y avoir du drame parce qu'une histoire d'amour qui est de bonheur, il n'y a pas d'histoire, comme on dit. Donc il faut nécessairement un certain nombre d'ingrédients. Et que dans les histoires d'amour les plus célèbres, en général, ça finit de manière assez dramatique, comme s'il y avait une peur de l'amour. Ou que le grand opposant de l'amour, c'était la mort. Donc voilà, ces thèmes ultra classiques qui ont bercé le théâtre et la littérature pendant des siècles, ben je me disais que c'était une bonne idée d'essayer de les lancer en bande dessinée. La seule chose, c'est que pour avoir une véritable ampleur, il fallait un certain nombre de livres, et ma capacité à dessiner étant nettement moindre que ma capacité à écrire, j'ai eu l'idée donc de le confier à plusieurs dessinateurs, et j'ai envie de dire plusieurs générations de dessinateurs aussi, puisque les jeunes avec qui je travaille pourraient être mes enfants.
Isler, donc, et ce projet de remonter le temps à partir de ses héros, ses premiers héros. Premier tome, donc, de cette hantée album, c'est Hugo et Iris.
Voilà, alors Hugo, c'est le père du personnage initial, Bernard Marie. Et là, le premier tome qui remonte le temps se déroule en France, en 1830, et va suivre un peu, il y en a encore 2 autres à suivre, albums sur l'histoire du papa, donc Hugo. C'est celui qui va écrire la guerre des yeux. On le voit dans cet album, contracter un mariage de raison avec la fille d'un riche industriel, propriétaire d'une mine de charbon. Cet Hugo, il y a un peu de Germinal dans l'album. Hugo va visiter la mine, partager le quotidien des mineurs, pris dans un coup de grisou, et à la faveur duquel, coup de grisou, il va découvrir des pâtures rupestre. Donc voilà, c'est le premier album de l'histoire du père de Sambre, si vous me suivez toujours.
Comme on dit, à suivre. La guerre des Sambres, donc Hugo et Iris, est édité chez Glénat Futuropolis.
Je peux faire mon marché, moi je voudrais bien un petit peu de Garouste, un petit peu de BD et puis un petit peu de Brésil aussi, ça m'avait l'air pas mal du tout ça.
Mais comment faire?
Je sais pas. Sophie,
ça devrait
faire un cadeau.
Bien sûr.
Merci à tous. Culture Vive avec Florence Ponce, réalisation Nicolas Spiga, Luc Danchaud à la technique. L'écrivain Patrick Rambaud sera notre prochain invité pour sa chronique du règne de Nicolas Ier, qui n'est pas le tsar de toutes les Russies, mais le nôtre, Nicolas Sarkozy. Bien à vous, à lundi.
Pour nous écrire par email, culture.vive@rfi.fr.
میکه حال کو سرتب میکه حال کو سرتب کل کار دب خواب میکه حال کو سرتب میکه حال کو تب تب میسه حال کو سرتب کل کار دب خواب